France Inter, le 18-20.
Votre travail vous ennuie, peut-être vous voudriez changer. Changer de vie, c'est pas seulement partir sur une île déserte, c'est le plus souvent faire un travail et puis un autre en accord avec vos valeurs. Un travail qui vous épanouisse plus, loin du bruit, peut-être de la pollution, loin des tracasseries de vos chefs. Les mains dans la terre, les mains dans la glaise ou juste ailleurs pour être heureux. Vous êtes 64% à y penser, un tiers à oser sauter dans le vide, justement parce que changer de vie s'apparente aussi à un saut dans l'inconnu. Ça se prépare, ça s'anticipe, ça se calcule aussi sans doute. Vous l'avez fait, ce grand saut, vous y songez, vous cherchez. Le téléphone sonne pour vous ce soir, soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse, le téléphone sonne.
Bonsoir Stéphane, c'est vous qui démarrez ce soir, soyez le bienvenu et on vous écoute.
Bonsoir, c'était un petit témoignage, une vie pas classique. D'abord athlète de haut niveau en ski, donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire des grands déplacements, des avions un peu de partout pour la compétition. Et je cherchais à gagner quelques secondes, et maintenant, je prends les quelques secondes, c'est-à-dire j'ai changé complètement de vie. Maintenant, on a retapé une vieille maison, on a des poules, on a des toilettes sèches, et on essaie de progresser dans le sens de la décroissance, c'est-à-dire qu'on essaie d'être hyper sobre. Et pour l'anecdote, je vous raconte juste le moment du changement. Le moment du changement, c'est après ma carrière personnelle, j'étais entraîneur de l'équipe de France de ski handisport, voilà, c'était très intéressant par ailleurs. Hein. Mais dans l'avion qui nous a emmené à Vancouver, on nous passe un film, vous savez, sur le petit écran. Là. Et c'était nos enfants nous accuseront, le film qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et ce jour-là, j'ai décidé que c'était fini, qu'il fallait arrêter, que c'était pas possible. Donc voilà, ça a été tout un cheminement qui fait que maintenant, on est parti en voyage à vélo avec mon ami. On a fait un an de vélo. On est allé très très loin, mais on n'a pas utilisé le moins possible.
Empreinte carbone zéro, donc, ou quasiment.
On tend vers ça. Évidemment que c'est hyper compliqué, qu'il va falloir changer beaucoup de choses. Mais nous, on se retrouve... maintenant, ma vie, elle me plaît vraiment. Ça ne me pose aucun problème. Je regarde ça de très loin, mais dans les Jeux Olympiques, même si j'ai participé aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, à travers plusieurs épreuves, je ne comprends plus. Je n'arrive plus à comprendre ça. Je trouve que ça a donné plus de sens à ma vie, en fait, d'avoir des choses plus simples, peut-être, mais qui ont plus de valeur. Ne serait-ce d'aller chercher mes œufs le matin au poulailler. J'en suis trop, vraiment très heureux.
Et vous avez l'air... et c'est tant mieux. Vous vivez de quoi, Stéphane, par curiosité? Parce qu'à un moment, il faut bien gagner sa vie aussi.
C'est évidemment que le grand saut, il se prépare. Alors, il se prépare. Moi, il s'est pas préparé, mais c'est un cheminement, vraiment. C'est-à-dire que c'est très compliqué à comprendre pourquoi, à quel moment, quelle rencontre qui va faire qu'on est dans un milieu qui est complètement à l'opposé, où on nous parle que de business, de sponsors, de machin, et qui fait qu'à un moment, on rencontre peut-être une personne et maintenant, on a un mi-temps avec mon ami. Chacun a un mi-temps. Le reste du temps, on est à la maison, on fait 1000 mètres carrés, voilà, pour être précis, de potager, qui nous sert énormément à nous. On passe beaucoup de temps à faire aussi du bénévolat dans nos différentes associations et on trouve que on essaie chaque fois de donner vraiment du sens à ce qu'on fait et ça nous épanouit. Les soucis d'un futur qui nous rend un peu triste, mais on fait au quotidien ce qu'on peut pour essayer de faire avancer dans le bon sens.
Mais vous avez l'air d'être un homme heureux, Stéphane. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage et pour vous répondre, j'allais dire, en tout cas pour participer à cette discussion ce soir dans le téléphone sonne. Sophie Denave est avec nous. Vous êtes sociologue spécialiste des parcours scolaires et professionnels en duplex depuis le bureau de Lyon, qu'on remercie. Gilles Noblet est là aussi en duplex, lui, depuis France Bleu Nice. Merci aussi à eux. Vous êtes coach, auteur de l'évolution professionnelle pour les nuls. Business, c'est aux éditions First. Et puis Bruno Albanese dans le studio avec moi, merci beaucoup, fondateur d'Audace, réseau d'aide à la création d'entreprises. Bruno Albanese, puisque c'est vous que je vois, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce que dit Stéphane. Il y a beaucoup de gens qui passent, j'allais dire, du tout au rien, en fait, mais ça n'empêche pas d'y réfléchir et de cheminer jusqu'à son but, en fait.
C'est le mot-clé, en fait, le cheminement, c'est la différence entre la création d'entreprise ou d'activité, pour être plus large, et le salariat. Le salariat, on a un poste, on a un rôle. Et l'entrepreneuriat, au sens le plus large possible, on est bien entendu d'accord, c'est un chemin, la création d'entreprise. C'est un chemin et on ne sait pas où ce chemin nous mène. C'est ce qui fait peur, c'est ce qui gêne, c'est ce qui gratouille, c'est ce qui peut déranger, puisque l'être humain est ainsi composé, c'est qu'il a du mal à ne pas savoir où il va.
Sophie Denave, vous qui êtes sociologue spécialisée justement dans les parcours scolaires, les parcours professionnels aussi, moi il y a un chiffre qui m'intrigue, Stéphane lui a passé le pas, il y a 67% des gens qui se disent « moi j'aimerais bien changer », il n'y en a qu'un tiers finalement qui acceptent de passer le Rubicon. Pourquoi à votre avis ce chiffre finalement est aussi élevé pour ceux qui veulent changer mais au final pas si élevé que ça ? Sophie Denave, est-ce que vous m'entendez ? Eh ben écoutez, vous ne m'entendez pas. Je vais peut-être essayer de poser la question à Gilles Noblet. Bonsoir monsieur Noblet, est-ce que vous m'entendez ?
Bonsoir.
Ah, écoutez, formidable. Je vous entends. Allez-y. Donc je disais, il y a 67% des gens qui veulent faire le saut, un tiers seulement qui finalement le font. Ça fait un drôle d'écart entre ces deux chiffres quand même.
Bah, disons, une reconversion, c'est quand même difficile, même quand c'est une reconversion volontaire, comme c'était le cas du précédent exemple, voilà, de Stéphane. Hein. Ça demande un certain nombre de sacrifices, c'est quand même source de stress, et donc entre le fait de dire « je me lance » et le fait de passer vraiment à l'acte, je dirais il y a un cap.
Il y a un cap que certains franchissent, mais c'est ce qu'on disait à l'instant, hein, il y a un cap de préparation aussi peut-être, il faut savoir où on va, quoi.
Oui, il faut pouvoir faire le point, je dirais, dès le départ. Donc, se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, effectivement, c'est des questions qui vont nous permettre un peu de définir, de clarifier son projet, de creuser plusieurs pistes, de même faire des expériences, faire des immersions pour se dire, tiens, je vais faire tel job, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Je me rappelle l'exemple de cette femme d'affaires qui voulait faire fleuriste et qui, après quelques jours dans une boutique de fleuriste, a compris que le métier n'était pas fait pour elle. Et puis, finalement, dans cette période de latence, de réflexion, finalement, on peut prendre la décision de ne pas faire de reconversion. On peut simplement décider de changer quelque chose dans sa vie et pas de changer de vie.
Il y a des fantasmes, peut-être, non, Bruno Albanès, on veut ouvrir un restaurant, on veut ouvrir un bar, on veut avoir une ferme. Il y a quelque chose d'assez, parfois un peu caricatural, en fait, quand on y songe, si effectivement on n'a pas préparé les choses réellement, des choses qui sont un peu fantasmées, peut-être.
Oui, il y a beaucoup de fantasmes et aussi beaucoup de... Comment dire cela ? Beaucoup de rêves, beaucoup de rêves. Et l'image que je donne souvent, c'est que on imagine souvent son entreprise une fois terminée, c'est-à-dire la tour de 12 étages terminée. Sauf que avant de construire une tour de 12 étages, il y a évidemment beaucoup de choses à faire avant, beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à essayer, à expérimenter. Là, je rejoins effectivement tout ce qui a été dit. Il faut faire des expériences, des expérimentations. Et on dit généralement que pour créer une entreprise, une activité, il faut à peu près 9 mois. Et voilà, c'est ce temps-là qui nous permet de nous poser les bonnes questions. Alors, avoir des bonnes questions, c'est une chose, mais avoir des bonnes réponses, c'en est une autre. Ouais.
Maxime, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un peu un grand spécialiste du changement, parce que vous avez changé beaucoup de vie et de carrière, en fait.
Tout à fait, oui. En fait, j'ai eu un bac STI-GMP.
C'est-à-dire, pardon, mais je ne sais pas ce que c'est.
Technique industrie en génie mécanique productique.
D'accord.
Complètement par hasard. Hein. À la base, j'étais inscrit en S, ils m'ont perdu mon dossier, donc du coup, j'ai changé d'établissement pour parce qu'il n'y avait plus
d'accord.
de place.
Okay.
Enfin, bref, une histoire de fou. Bon, j'ai eu mon bac, et puis à l'issue de ça, j'ai cherché un boulot, parce que j'avais envie de prendre un peu mon envol. Mm-hmm. Je me suis retrouvé dans une société qui faisait du traitement des métaux, à Montreuil, en région parisienne. Vous savez où j'ai grandi. Et donc, je me suis rendu compte assez rapidement que le boulot à l'usine, c'était vraiment pas quelque chose que j'appréciais. Mmh. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, j'ai passé un BTS opticien-lunetier. Et ça s'est très mal passé. Dans le sens où je me suis retrouvé dans le milieu du luxe, à vendre des lunettes de créateur. C'est un produit auquel je ne croyais pas vraiment. Je trouvais que de vendre des lunettes qui valaient des fortunes à des gens, c'était pas du tout agréable. Donc, j'ai décidé d'arrêter ça et de passer à autre chose. Et comme je savais pas quoi faire, j'ai regardé les petites annonces et je suis tombé sur un métier qui venait d'être créé. Donc c'était ABS, assistant vie scolaire. Et à l'époque, c'était tout nouveau, donc personne ne savait ce que c'était. Même le directeur de la première école où j'y étais ne savait pas ce que
c'était. Et moi non plus, je ne sais pas ce que c'est.
Et ben en fait, à l'époque, c'était pas grand-chose. Ça s'est spécialisé assez rapidement en AVSI. Donc, au bout de quelques années...
Et je ne sais pas non plus ce que c'est la VSI. Vous étiez quoi exactement, Maxime ?
Au départ, je gérais la bibliothèque de l'école. D'accord. Je faisais des cours d'informatique aux enfants dans le cadre du B2I.
D'accord.
Qui est le brevet informatique et Internet.
Ok.
Donc, en école primaire.
Ouais.
Je me suis retrouvé donc AVSI. Donc, le I, c'est pour l'individuel.
Ok.
Je suivais des élèves handicapés. En fait, c'est suite à une rencontre avec un élève sourd. J'ai rencontré le référent handicap de la circonscription qui m'a... briefé sur comment faire un cours à un élève sourd, sommairement, hein, c'est un élève sourd appareillé. Donc, j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'ai eu diverses formations sur le sujet des enfants handicapés, etc. Au bout de quelques années, on m'a proposé de renouveler mon contrat et cette personne-là faisait partie du comité en fait qui auditionnait les postulants. Il m'a proposé ce poste d'ADSI, j'ai signé tout de suite. J'ai eu encore plus de formation et au bout de 7 ans, je me suis retrouvé donc à assister une personne qui s'occupait d'un centre expérimental.
D'accord.
Sur les troubles des conduites et du comportement.
Dis donc, vous en avez eu des vies, vous. Allez-y.
Voilà, et donc je me suis retrouvé donc dans ce centre à monter des projets pédagogiques pour essayer d'aider des enfants en très grande difficulté. C'était un boulot qui était très difficile, mais pour lequel j'avais vraiment des facilités à me lever le matin. Et c'est là que j'ai pris la décision de continuer en fait là-dedans, parce que c'était ça qui me motivait. Et ensuite, le gouvernement a décidé de couper les crédits du centre, donc le centre a fermé. Et mes collègues ont tous été reclassés à gauche, à droite. On m'a proposé un poste qui m'intéressait pas du tout. J'ai dit non et j'ai arrêté là ma prestation avec l'éducation nationale.
Ok. Et maintenant
j'ai décidé de me reconvertir en boulangerie. Donc j'ai pris ma moto, je suis descendu de Paris à Aurillac. J'ai été donc à l'école de boulangerie d'Aurillac me former. Et depuis, je m'organise mon petit tour de France à moi en allant travailler à gauche, à droite. C'est-à-dire que dès que je trouve un travail dans une région auquel dans laquelle je n'ai pas encore travaillé, je saute sur ma moto et dans les 3 jours, j'entame mon nouveau boulot.
Bah dites donc, alors attendez, je vais calculer. Vous avez donc travaillé dans la métallurgie, vous avez été opticien, vous avez été un peu éducateur ou autour dans l'éducation nationale et maintenant vous êtes boulanger. Rappelez-nous, Maxime, quand vous aurez un autre job et un nouveau job, parce que vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup et ah pourquoi
je peux
pas...
Je vais vous raconter d'autres, hein, parce que j'en ai encore plein. Des jobs que je n'ai pas tenu longtemps, que j'ai tenu 2-3 mois, parce que j'ai également travaillé par exemple pour la PJJ dans le centre de Gurgi, j'ai travaillé également dans les vignes, j'ai également travaillé, voilà, j'ai vraiment eu beaucoup d'emplois.
Maxime.
Et à chaque fois, la règle, c'est si ça m'embête de me lever le matin pour aller bosser, je démissionne et je prends quelque chose d'autre.
Eh ben Maxime, on a bien compris votre mode de vie. En fait, alors tout le monde ne fait pas tous ces allers-retours. Sophie Denave, on vous a retrouvé, non?
Oui.
Ah, formidable. Formidable, Sophie Denave, spécialiste des parcours scolaires et professionnels. Parcours un peu inédit que celui de Maxime. En fait, mais ce que ça veut dire, effectivement, c'est qu'on peut bouger tout le temps dans sa carrière, évidemment. Et l'argument que je retiens surtout dans ce que vient de nous dire Maxime, c'est dès que je m'ennuie, je m'en vais.
Alors, vous avez une petite partie de la population qui a l'opportunité, effectivement, de pouvoir changer quand ils le souhaitent. J'ai effectivement rencontré des gens qui ont changé, qui changent de vie à peu près tous les 10 ans. Ils sont extrêmement minoritaires, puisque la plupart du temps, il y a quand même des conditions sociales de possibilité. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les parcours et qui vont pouvoir mettre un terme à tous vos projets de reconversion. C'est-à-dire qu'il faut quand même disposer de ressources. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans le dernier témoignage, c'est de parler de ces gens qui travaillent à l'usine, dont on parle assez rarement dans les émissions. On se consacre beaucoup aux cadres, aux cadres qui ont l'opportunité économique, qui ont aussi les diplômes, qui leur permettent davantage de bifurquer, de changer de vie, etc. Or, en France, une personne sur deux dans la population active est employée ou ouvrier. Des gens qui souffrent énormément au travail, donc qui aspirent également à changer de métier, et pour lesquels ça va être beaucoup plus difficile, notamment pour ceux qui ont un niveau de diplôme, je vais dire CAP, qui ont eu des salaires autour du SMIC, donc qui ne peuvent pas vraiment mettre d'argent de côté, qui ne peuvent pas prétendre à n'importe quel type d'emploi. En France, il y a énormément d'emplois qui sont réglementés par niveau de diplôme, par concours, etc. Et je pense qu'il faudrait effectivement s'intéresser davantage à ces gens et leur permettre de pouvoir bifurquer plus facilement. Donc voilà.
Ça veut dire que ce qui manque, c'est l'accompagnement, en fait, Sophie Denave, peut-être?
Alors, l'accompagnement, je ne sais pas. Tout à l'heure, les autres intervenants parlaient d'une nécessité d'un temps de réflexion. Et ça, je trouve que c'est très important. Effectivement, je crois qu'on a besoin de temps quand on veut changer de métier. Moi, j'ai rencontré des gens qui en avaient d'abord ras-le-bol de leur situation professionnelle, qui voulaient en partir sans du tout savoir ce qu'ils allaient faire le lendemain, sans même savoir qu'ils allaient changer de métier. Et ça se construit petit à petit. Donc, certains ont le temps de justement pouvoir rencontrer des gens, aller discuter, voir un peu des métiers qui nous intéressent a priori, etc. Mais vous avez d'autres personnes qui n'ont pas ce temps-là parce qu'il faut payer son loyer, payer ses charges.
Il y a des principes de réalité, évidemment, des principes de réalité qui jouent et qui sont importants. Vous restez avec nous, évidemment, Sophie Denave. Je voudrais qu'on écoute Delphine. Bonsoir, Delphine.
Bonsoir.
Et pour vous, c'est pas si simple, en fait. Racontez-nous.
Donc moi, en fait, donc je suis toujours, je fais partie aussi de la famille des cadres hein, là-dessus, qui ont la possibilité, heureusement, de pouvoir changer. Donc c'est vrai que tout, moi j'habitais à Thonon-les-Bains, donc j'ai travaillé depuis 1997 dans l'industrie en tant qu'ingénieur, responsable qualité, donc j'ai eu différents postes, donc c'était des changements en fait, mais je dirais toujours dans la même dans le même branche. Et en fait, mon ami, donc mon mari maintenant, lui désirait vraiment changer de région, changer, sortir de la ville. Et en fait, on a acheté une maison avec du terrain en Ardèche, avec l'ambition en fait d'ouvrir, enfin de faire quelque chose avec ces terrains. Moi, j'ai eu la possibilité, donc j'ai eu le temps, comme vous disiez, le temps, donc mon mari, lui, gagnait sa vie. J'ai eu le temps de pouvoir faire un BPREA, c'est-à-dire un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc c'est un accompagnement qu'on a pendant une dizaine de mois dans un lycée agricole qui fait donc CFPPA, de manière à obtenir ce diplôme. Donc ça nous forme en fait à être agriculteur, responsable d'exploitation agricole, donc il y a une partie comptabilité, une partie technique, que ce soit en élevage, en maraîchage, donc selon les différentes spécialités. Et on inclut en fait dans cette formation différents stages. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là-dessus, c'est l'occasion aussi de voir si on est vraiment fait pour ce métier-là. Donc moi je me suis rendu compte que oui, mais c'est vrai qu'il fallait quand même encore préparer l'arrivée, parce que bon, la ferme, on l'a achetée, elle était quand même pas en très bon état, il y avait encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'argent à investir, que ce soit parce que donc se monter dans une exploitation maraîchère, c'est quand même beaucoup aussi d'investissement, que ce soit au niveau du matériel, au niveau donc, et puis il faut pouvoir survivre, enfin vivre de quelque chose pendant un an, le temps qu'on ait les premières récoltes et qu'on commence à avoir du rendement. Donc voilà, donc là on a eu une opportunité de déménager donc cette année, de s'installer. Donc moi j'ai été accompagnée encore donc pour poursuivre la formation avec la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, donc qui propose différentes formations. On peut faire aussi encore un autre stage avec une personne qui est installée, un exploitant, de manière à parfaire vraiment savoir, puis connaître un peu les réseaux aussi.
Et hein, donc, là... Delphine, pardon de vous presser, il y a du monde qui attend au standard. Et donc aujourd'hui, en fait, comment ça se passe pour vous? Les surprises, alors, quelles sont-elles?
La surprise, en fait, c'est que bon, pour être maraîcher, il faut de l'eau. Il faut de l'eau, donc moi je veux construire une retenue. Et le souci, c'est que derrière, on m'a dit non, mais ça c'est pas tout simple comme ça. Donc là, la retenue... ça peut être bien. Par contre, il y a des obligations au niveau de la police de l'eau, donc surtout la partie de l'Ardèche où j'habite. Et en fait, là, maintenant, on est en train de demander une autorisation, de fournir un dossier d'autorisation pour faire cette retenue, qui va prendre un temps indéterminé, minimum c'est octobre prochain. Donc en gros, je vais pouvoir perdre encore 1 à 2 ans avant de pouvoir me monter vraiment et démarrer l'exploitation maraîchère.
Et ça,
donc,
ce que vous dites, Delphine, pardon, vous l'ignoriez, ça veut dire qu'il y a des informations dont vous auriez besoin avant, auriez eu besoin avant, notamment sur ce que vous vouliez réellement faire dans cette exploitation?
Oui, bah, c'est-à-dire que les informations, je n'ai pas pensé à ce point-là que j'en aurais besoin tant que ça, cette retenue d'eau. Pour moi, c'était une formalité, donc il y avait des demandes à faire, je savais, auprès de la police de l'eau. Mais par contre, tout ce qui était législation sur les cours d'eau, la loi de l'eau, etc., et en plus que je suis dans une partie qui est vraiment très très surveillée, du coup, c'est vrai que là, je suis partie un peu à l'aventure. Et là, maintenant, je suis là-devant, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai déménagé, j'ai tout laissé. Et qu'est-ce que je vais faire, quoi? C'est un peu ça, le problème.
Et vous avez une pointe de regret ou pas? Est-ce que le retour en arrière est envisageable et envisagé ou pas?
Non, maintenant, on peut pas repartir en ville. Enfin, je veux dire, moi, je me sentirais pas du tout de repartir dans l'industrie, en ville, ou quoi que ce soit. Même mes enfants, maintenant, ils me disent, moi, je retourne pas en ville. Donc là, ils ont quand même la liberté qu'ils n'avaient pas sur Thonon-les-Bains. C'est vrai que là... eux, ils courent beaucoup, donc ça leur plaît. Mais maintenant, c'est vrai que je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que j'ai les moyens d'attendre un an ou 2 ans? Ou est-ce que je dois changer et puis aller faire autre chose? Mais là, moi, de l'agriculture, ça me plaît vraiment. Je veux vraiment de faire ce maraîchage. Et là, je suis coincée.
Et vous êtes coincée. Et on a bien compris que vous étiez coincée, Delphine. Merci beaucoup pour votre témoignage. Gilles Noblesse, intéressant ce que dit Delphine, parce qu'elle a l'impression d'être parée, formée. Elle a fait ce qu'il faut. Et puis on se retrouve face à un os, c'est le moins qu'on puisse dire, quelque chose de presque insurmontable. Comment on fait dans ces cas-là?
Ben oui, ben dans un parcours comme le sien, voilà, on s'est lancé, les choses se passaient bien. Bon, souvent il y a des freins, hein, que dans une reconversion, la complexité des démarches administratives, le fait de perdre des droits acquis. Là, elle a suivi son mari, c'était un projet de vie, hein, donc ils étaient tous les deux d'accord. Et là, effectivement, ce qui se passe, c'est que le scénario en fait qu'elle avait envisagé, ben c'est pas celui qui se déroule sous ses yeux en ce moment. Donc il faut pouvoir accepter la situation et se dire, ben qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour changer les choses? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire que j'avais pas prévu? prévu en fait, et comment je je sais quand même que ce que ma reconversion c'est ce à quoi j'aspirais. Enfin, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me convenait. Donc, on peut dire qu'elle a vraiment quelque chose en main qui lui plaît. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est un point d'appui. Donc, il faut maintenant qu'elle trouve d'autres points d'appui pour lui permettre vraiment d'arriver à destination. Et donc, effectivement, comme elle le dit peut-être, trouver un job de dépannage pendant un an, tout en qui lui permet en même temps de faire avancer son dossier. Voilà, c'est effectivement pouvoir réagir de manière intelligente et ne pas quelque part s'enferrer dans le problème en se disant tout est bloqué. Non, il y a toujours une porte de sortie.
Et en se mettant effectivement probablement dans une difficulté financière importante. Bruno Albanès, est-ce qu'il y a des retours en arrière parce qu'on s'est trompé? Ça existe beaucoup.
Et j'ai
envie de dire aussi, est-ce que c'est vraiment grave?
Mais non, c'est pas. Enfin, ça, évidemment, tout dépend du problème et de la problématique. Mais c'est le quotidien de tous les chefs d'entreprise, de tous les entrepreneurs. On avance de 5 pas, on recule de 3, on avance de 8, on recule de 4, mais on avance. Et effectivement, de temps en temps, on n'avance pas aussi vite qu'on aimerait avancer. Mais je dirais ça, franchement, c'est le quotidien de tous les entrepreneurs. Moi, si vous voulez, je crois que pour entreprendre sa vie, pour entreprendre une nouvelle activité,
quel que soit le domaine,
il y a 3 conditions. La première, c'est d'être motivé. Il faut avoir une motivation profonde, sincère. La deuxième, c'est être disponible dans sa tête, pas avoir de conflit avec d'anciens employeurs ou avec ses proches. Et la troisième condition, celle qu'on oublie souvent, et c'est celle qui est essentielle, et d'ailleurs tous les témoins l'en ont parlé, c'est le soutien des proches. Car le soutien des proches, c'est le camp de base. C'est le camp de base que quand on fait une ascension, une entreprise, une création d'activité, quelle qu'elle soit, on a besoin de se replier de temps en temps parce que on peut pas passer le col, parce qu'il y a du brouillard, parce que il y a une autorisation administrative qu'on attend et qui vient pas. Et là, il faut savoir se replier, j'allais dire au chaud, dans un endroit qu'on connaît, un endroit qu'on a protégé. C'est le camp de base et c'est la famille.
Bonsoir,
les proches.
Bonsoir Sabine.
Bonsoir.
Et on vous écoute, Sabine. Soyez la bienvenue dans le téléphone seul.
Merci beaucoup. Alors moi, j'ai été fonctionnaire pendant 20 ans dans les ressources humaines. J'étais cadre. Et en 2000, j'ai décidé qu'un jour, j'ouvrirais mon entreprise. J'avais pas forcément une idée très précise de ce que je voulais faire comme type d'activité dans cette entreprise. Mais je savais que j'allais ouvrir une entreprise, ce que j'ai fait en 2012. Donc j'ai démissionné en 2012 de la fonction publique, alors même que j'avais un excellent salaire, des responsabilités, etc. Enfin bon, bref, tout allait bien de ce côté-là. J'ai pas quitté la fonction publique par dégoût ou parce que j'en avais ras-le-bol. Non, c'était vraiment une vraie volonté de créer mon entreprise. Et donc j'ai profité à la fois de l'expérience que j'avais acquise dans mon domaine de compétences pendant toutes ces années. Et j'ai mené d'ailleurs ma carrière avec cet objectif de développer un maximum de compétences. Et j'ai profité également de la mise en place d'une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique. Et j'ai fait en sorte qu'elle soit le montant maximum possible pour que je puisse partir avec une indemnité qui m'a permis pendant un an de vivre avec un salaire correct en attendant que mon activité se développe correctement.
Et par curiosité, voilà. Vous vous êtes payé à partir de quand, en fait, Sabine?
Eh bien, en fait, moi, je me suis payée tout de suite parce que j'ai commencé mon activité en cumul d'emploi.
D'accord.
Pour la tester, pour développer déjà ma clientèle. Donc, je me suis payée tout de suite, mais un salaire assez faible sur la base de mon activité. Donc, j'ai à peu près utilisé 80% de mon indemnité de départ.
Et vous êtes restée dans votre zone de compétence quand même?
Oui, complètement. Je suis restée complètement dans mon zone de compétence. Alors, à ceci près tout de même, c'est que quand vous avez été fonctionnaire là, mais si j'aurais été salarié, ça aurait était la même chose. Vous n'avez pas du tout la même conscience de la responsabilité que quand vous êtes chef d'entreprise. Avec d'autant plus de raisons, c'est que moi j'ai commencé, donc quand je faisais du cumul d'emploi, j'étais en auto-entrepreneur et puis je suis restée en auto-entrepreneur pendant 2 ans. D'autant plus que j'ai eu un petit avatar, c'est que je suis tombée enceinte l'année de mon départ.
Un avatar.
et oui, parce que c'était quand même pas prévu dans le scénario comme ça. On pensait avec mon mari qu'on pouvait plus en avoir, donc voilà. Sauf qu'il est arrivé, Ben voilà. Oui. Et elle est arrivée dans très mauvaises conditions puisque c'était un très grand prématuré. Donc j'ai eu une année 2012 blanche quasiment. Enfin, j'ai fait les contrats que j'avais prévus initialement, mais j'ai pas pu développer ni quoi que ce soit. Et puis il a fallu gérer quand même la grande prématurité, etc. Ouais. Heureusement pour elle, pour ma fille et puis pour nous, tout s'est bien passé. Hein, et elle est en très bonne santé aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu ce petit moment de flottement là qui a pu compromettre, risquer de compromettre mon projet. Et puis à partir de 2013, j'ai vraiment commencé à développer.
Vous êtes envolée.
Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, ma société marche bien. Ouais. J'accompagne d'ailleurs beaucoup de gens dans tout ce qui est transition professionnelle. Donc, et je suis aujourd'hui dans une phase de développement.
Voilà, donc
une nouvelle phase de développement.
La société va bien, l'avatar aussi, visiblement. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Sabine, pour votre témoignage. Sophie Denave, vous souhaitiez intervenir?
Oui, je voulais intervenir puisque je trouvais ce témoignage vraiment intéressant dans le sens où elle montre bien que finalement elle a mobilisé dans son nouvel emploi des compétences qu'elle avait déjà acquises dans son emploi précédent. Et en fait, ce type de parcours constitue la majeure partie des reconversions. On met souvent en avant des gens qui ont radicalement changé de métier, de domaine professionnel, alors que les trois quarts de la mobilité sont constitués par des gens qui vont changer, mais pour des métiers ou des secteurs professionnels voisins. Et on le comprend très bien parce que aujourd'hui, repartir à zéro dans un nouveau domaine nécessite de passer par une formation, hein, le plus souvent pour acquérir de nouvelles compétences, et qu'aujourd'hui, les formations de longue durée sont rarement prises en charge par, sont rarement rémunérées. On a des formations de quelques mois, on peut faire un CIF jusqu'à un an, mais si on veut vraiment repartir à zéro dans un nouveau domaine où il faut vraiment acquérir sur plusieurs années des compétences, des connaissances, des savoir-faire, aujourd'hui, il manque un peu des structures, notamment étatiques, hein, pour encadrer tout ça. L'aide des proches, c'est bien, mais ça ne suffit pas, notamment quand les proches ne peuvent pas toujours nous aider.
Et Bruno Albanès, d'ailleurs, on dit souvent qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'aura jamais le même métier tout au long de notre vie. Peut-être qu'il manque un maillon, effectivement, aujourd'hui, puisqu'on n'aura pas le même métier tout au long de notre vie. Autant nous aider à passer de l'un à l'autre avec plus de facilité.
Je crois que ce qui est essentiel, effectivement, c'est d'acquérir les bonnes postures. Les bonnes postures pour pouvoir changer. Il est clair aujourd'hui que nos jeunes qui ont 20 ans et qui sortent de leur formation universitaire ou scolaire vont faire des métiers pour 60% qui n'existent pas encore aujourd'hui. Alors vous imaginez bien que à ce niveau-là, c'est assez énorme. Et on dit aussi qu'ils vont faire plusieurs métiers, 6, 7, 8 métiers, sans pour autant que ça les perturbe. La multi-activité aujourd'hui est devenue un moyen aussi. Et ça a été témoigné d'ailleurs, la multi-activité qui permet d'avoir deux ou trois activités concomitantes, qui permet peut-être ça plus ça plus ça de faire un revenu un peu plus conséquent et surtout beaucoup plus sérénisant.
Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. Vous allez pouvoir rebondir sur ce que disait Bruno Albanès à l'instant, puisque vous, votre premier métier n'existe plus en fait.
Voilà, oui, en fait, moi, je suis à la base, je suis opérateur projectionniste de formation et l'arrivée du numérique dans l'exploitation cinématographique a eu raison de ce métier, quoi. Donc, ça a été très compliqué, c'est toujours très compliqué avec mon employeur. Mais voilà, du coup, à un moment donné, on se dit, il va falloir changer de vie, donc quoi faire, comment faire. Il s'avère que j'ai une association que j'ai créée en 99 qui existe toujours, une association culturelle, citoyenne. Voilà, où on défend les pratiques et la diffusion artistique. Et du coup, on a un outil qui est là, on a un réseau, on a des compétences, des connaissances, et on se dit peut-être que c'est ça qui va nous permettre de changer de vie et de pouvoir aller sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qu'on tient depuis longtemps, mais qu'on n'a jamais voulu, parce qu'on sait que c'est fragile la culture, parce que voilà, on est dans le système associatif. Et pourtant, voilà, on a des usagers, on a des adhérents, on commence à avoir une petite reconnaissance, renommée. Voilà, on est des acteurs culturels importants dans le coin, on nous l'a dit, on nous l'a signifié. Et pourtant, voilà, il y a une situation qui est là, de très grande précarité, psy, antidépresseurs, et heureusement qu'il y a cette activité associative qui avec mon épouse, nous permet de nous sortir un petit peu, de nous tenir un peu, dans un état un peu de rêve, quoi, de bien-être.
Ça veut dire que vous n'avez pas retrouvé un vrai travail ou quelque chose qui vous corresponde vraiment, en fait, cette année?
Non, d'autant plus que de toute façon, je suis toujours en arrêt maladie, toujours pas, toujours en contrat avec cette structure qui, voilà, j'attends les prud'hommes, là, qui vont arriver au mois de février pour qu'une décision soit prise. Moi, je suis bloqué, je peux rien faire. Voilà, j'ai pas de rémunération d'indemnité journalière parce que l'inspection du travail, la sécurité sociale ne veut pas s'engager sur des pathologies psy dans mon département, donc ils veulent pas prendre de risques. Du coup, j'ai pas d'indemnité journalière. Je suis donc ils reconnaissent ma longue maladie, mais pas mon arrêt de travail. Mon épouse est au chômage, elle a un travail de saisonnier. Donc voilà, on a des très faibles revenus, on n'arrive pas à payer le loyer, c'est très compliqué pour nous. Et on a cette opportunité pourtant de vraiment de plutôt que de subir un changement de vie, et ben là on a une opportunité pour pouvoir être vraiment libre de notre vie professionnelle, par une activité que l'on maîtrise, que l'on connaît. Et là on n'a pas d'aide, on n'a pas d'accompagnement, on trouve personne parce qu'on n'a pas d'argent à mettre dedans, parce que on a que ce qu'on a construit au fil des 18 dernières années avec cette association, et puis des rencontres qui ont été faites par le biais de mon emploi, moi, au cinéma, en tant qu'opérateur, mais en tant que référent aussi auprès du public, donc voilà, quelqu'un d'important, et puis cette valorisation-là ne s'est pas faite, et du coup, on est là, quoi, on est le cul entre, une espèce de cul entre deux chaises, où voilà, heureusement qu'il y a la trêve hivernale, et qu'on puisse avoir encore une maison sur notre tête, quoi.
Cédric, on entend toutes les difficultés qui sont les vôtres. Gilles Noblet, vous qui êtes coach, j'entends quelque chose dans ce que vient de nous raconter Cédric. C'est le fait d'avoir subi son changement de vie, en fait. Et le mot-clé dans ce qu'il nous raconte, c'est celui-là.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux types de reconversions. Il y a les reconversions choisies et les reconversions subies. Et c'est pas du tout le même état d'esprit. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Quand on fait une reconversion volontaire... Bon, souvent, l'idée, c'est de pouvoir réaliser des aspirations inassouvies. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui a comme passion le vélo, qui se dit, après 15 ans de job comme technicien, je voudrais devenir réparateur de vélo. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple. Et donc, on a l'espoir d'arriver, effectivement, dans un nouveau port d'attache et quelque part de faire le chemin pour le faire. Et quand on a fait une reconversion involontaire, on va souvent mal la vivre. Mmh. Donc, mais en général, si on se sent bloqué, on va avoir l'impression que le monde est contre nous, en quelque sorte. On va perdre en estime de soi et on va avoir une vision, en fait, réduite des possibilités qui s'offrent à nous. Donc, je dirais, là, c'est important de pouvoir rebondir, de pouvoir s'ouvrir au monde, d'aller un petit peu à la chasse. Par exemple, il y a un portail sur toute la reconversion qui s'appelle Nouvelle Vie Pro. C'est intéressant. On va y trouver des articles, des témoignages, des histoires.
Des gens qui ont vécu la même chose ou les mêmes problèmes que nous
et qui donnent des solutions. Donc, ça va nous inspirer. Il faut vraiment pouvoir se laisser inspirer par d'autres, parce qu'on n'est pas le seul à avoir ce genre d'histoire.
Bruno Albanese, quand j'entends ce que dit Cédric, il n'est pas disponible, Cédric, dans sa tête. Alors, bien malgré lui, on a vraiment bien compris ça, mais pas disponible pour pouvoir rebondir ailleurs. Et peut-être que la clé, c'est ça aussi, c'est la disponibilité pour aller ailleurs.
C'est cette disponibilité, je parle de posture. Il s'agit de posture, ce que je qualifierais moi de posture entrepreneuriale, c'est-à-dire cette souplesse, ce lâcher prise, qui n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais qui est indispensable. Et qui va être de plus en plus indispensable, puisqu'on parle de 40% des salariés qui vont devoir se former à un nouveau métier dans les années à venir. C'est le chiffre qui circule aujourd'hui. Donc il faut quand même que tout le monde se prépare à changer. Peut-être pas de vie, mais en tout cas à changer de métier, à changer d'activité et à se préparer à cela.
Et peut-être qu'il y a quelque chose de générationnel là-dedans. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
Et c'est un peu ce que vous vous dites. Peut-être que nous les plus vieux, on réagit pas pareil que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui.
Alors moi, c'est effectivement la position que je défends pour prolonger ce qui a été dit un petit peu avant. Alors moi, j'ai 53 ans, j'ai 4 enfants, 21, 25, 15 et 16, et j'ai une société et je donne depuis plus d'une dizaine d'années des cours à la fac en Bac plus 3, Bac plus 4. Et je vois dans les générations qui arrivent, ils ont déjà cette agilité dont on vient juste de parler, c'est-à-dire que le problème de reconversion ne s'oppose pas. On a des gens en face de nous qui qui ne prennent pas de CDI pour être maîtres de leur devenir professionnel. Et je le vois dans les enfants que je forme, je le vois chez mes propres enfants aussi. Et c'est extrêmement intéressant parce que on a cette reconversion qui est dans l'ADN en fait des générations qui arrivent. Et ça, on n'en parle pas là. Je trouve que c'est absent du débat, alors même que c'est ceux qui vont nous supplanter, qui vont prendre la suite de nos boîtes, qui vont... je suis employeur. Objectivement, je suis employeur. Aujourd'hui, le mode de recrutement n'est pas du tout le même que celui que j'avais il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je dois faire face à des gens de 20, 21, 22, 23, 25 ans qui me disent « Bah moi, je suis prisonnier dans mon CDI. Donc, je veux un CDI qu'on renouvelle. On est parfois aux limites de la loi, mais le système doit se montrer aussi plus souple parce que le système bancaire, comme le système administratif dans sa globalité, craque un petit peu au cœur.
Merci beaucoup Jean-François. Sophie Denave, c'est vers vous que je me tourne, vous qui êtes spécialisée dans les parcours scolaires et professionnels. Il y a moins de peur de sortir de sa zone de confort peut-être dans la génération qui vient et qui entre sur le marché du travail que nous autres en fait qui avons dépassé un certain âge.
Alors, je pense qu'effectivement, quand on est jeune, on est les statistiques le montrent très bien, on est beaucoup plus mobile. Alors, c'est pas un effet pur de l'âge, c'est aussi puisqu'on est souvent célibataire, sans enfant. Mm-hmm. Donc, quand on change, on prend moins de risques, c'est plus facile. Après, effectivement, la génération actuelle, on n'arrête pas de leur dire qu'ils vont être amenés à changer de métier, etc. Donc, je pense qu'aussi, petit à petit, ça rentre dans les têtes. Mais il faut pas oublier que dans les années 60, il y avait aussi pas mal de gens qui changeaient de métier du jour au lendemain, et notamment dans ces périodes de plein emploi où il y avait pas de risque.
C'est ce que j'allais vous dire. Plein emploi.
Voilà, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais c'est pas nouveau en fait ce phénomène des bifurcations professionnelles. Alors effectivement, aujourd'hui on est plus frileux parce que effectivement c'est plus difficile de trouver un nouvel emploi. Donc les futures générations, je sais pas ce que ça donnera, mais effectivement de toute façon, sur toutes les générations, les moins de 30 ans se reconvertissent beaucoup plus fréquemment que les plus de 40 ou que les plus de 50 ans.
Et j'ai un chiffre, tiens Bruno Albenet, ce sera le mot de la fin sous les yeux, qui dit que ceux qui changent de vie, changent de profession sont évidemment moins nombreux dans les moins de 30 ans, mais dès les moins de 30 ans, ils sont 69% à rêver déjà de toute façon de changer. Vous, votre réseau s'appelle Audace, c'est un peu ce que ça veut dire en fait.
Complètement. Et d'ailleurs, on anime un atelier le 12 février à Paris.
Et ben voilà.
Créez même pas peur. Un atelier complètement gratuit, complètement disponible. Il suffit de s'inscrire sur leverlesfreins.fr. Et ça permettra à chacun de se poser des questions et d'anticiper peut-être un certain nombre de réponses. En tout cas, ils seront les bienvenus.
Eh ben, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup. Tiens, je voudrais terminer sur la note positive de Vivien, qui n'a pas pu nous appeler car il est en voiture. Et c'est mieux de ne pas nous appeler dans ces cas-là. Ingénieur en informatique. J'étais assez peu diplômé, dit-il. Je galérais en France. Je suis parti vivre à Londres. On m'a tout de suite donné les rênes. J'ai fait mes preuves. J'ai complètement explosé. Et là, j'ai monté mon entreprise en France. Et cela fonctionne. Merci, Vivien, pour votre témoignage. Merci à tous qui avaient téléphoné très massivement ce soir dans le téléphone sonne. Merci à tous les invités et bonne soirée.